On ne peut pas dire que la mort de Constantin Tchernienko ait vraiment affecté la population et les dirigeants soviétiques. Oh, bien sûr, le protocole officiel des funérailles est respecté, mais quand même on relève certains petits signes. Et à Moscou, ces petits signes ont de l'importance. Aujourd'hui, ce n'est pas la photo de Tchernienko qui est en première page de la Pravda, mais celle de Gorbatchev, son successeur. Tchernienko, lui, est en page 2. Et puis, il y aura seulement 3 jours de deuil national. Il y en avait eu 4 pour Léonid Brejnev et Yuri Andropov.
Gorbatchev au pouvoir, le changement est lancé, l'empire des soviets tremble sur ses fondements, la guerre terrestre en Afghanistan fait rage, la guerre spatiale, la Star Wars, a été lancée 2 ans plus tôt avec les États-Unis de Ronald Reagan. Au même moment, à Leningrad, on assiste donc aussi à l'émergence d'une scène rock.
Notamment le chanteur Viktor Tsoï et son groupe Kino. Ils incarnent les espoirs d'une génération branchée qui aspire au changement et à davantage de liberté. Ce 24 juin 1990, ils se produisent à Moscou, le premier grand concert de rock de l'URSS.
Alors, Mikhail Gorbatchev et Viktor Tsoï, deux hommes qui deviendront des icônes dans leur pays, ont-ils pu se rencontrer dans un ascenseur lors de ce concert à Moscou? On va voir?
Allons-y.
Année 1990.
Nous sommes à Moscou en 1990. Ça fait 5 ans que Gorbatchev est au pouvoir. Si la vieille garde a accepté qu'il succède à Tchernenko, c'est faute de trouver un autre candidat crédible. Mais rebobinons, revenons un petit peu en arrière. Brejnev meurt d'une crise cardiaque le 10 novembre 1980.
Il a fallu 24 heures pour annoncer la mort de Léonid Brejnev, le chef de l'État soviétique. Un temps suffisant pour organiser des funérailles, mais aussi, croit-on le savoir, pour prendre des mesures de sécurité. Celles-ci pourtant n'apparaissent pas nécessaires à en juger par le calme avec lequel la population, soit à Moscou, soit dans les lointaines provinces, a accueilli les nouvelles du décès du leader soviétique.
4 jours de deuil national sont alors décrétés et cette question, qui pour lui succéder?
Le mieux placé dans la course, c'est Yuri Andropov, 68 ans, autant dire un jeune. Aucun kremlinologue n'ose se montrer très sûr de ses pronostics. Andrei Kirilenko, autre dauphin possible, semble éliminé pour cause de maladie. On cite toujours les noms de Tikhonov, l'actuel Premier ministre, de Dmitri Ustinov, le ministre de la Défense, d'Andrei Gromyko, le ministre des Affaires étrangères. Tous ont plus de 70 ans. Des jeunes outsiders ont-ils une chance? Peut-être. On parle par exemple de Mikhail Gorbatchev, 51 ans, le plus jeune membre du bureau politique et un spécialiste de l'agriculture.
Mikhail Gorbatchev est déjà pressenti, mais ce ne sera pas pour cette fois. Il n'est pas prêt.
Ce sera Yuri Andropov.
C'est l'ex-président du KGB, le principal service de renseignement du pays, comme vous le savez, qui accède alors au pouvoir. Mais dès le mois d'août, il se fera discret. Il est même absent des cérémonies officielles. Yuri Andropov, malade, meurt le 9 février 1984. Son règne aura duré 15 mois. Constantin Tchernenko devient alors le numéro 1 du régime. Il souhaite notamment œuvrer pour de meilleures relations avec la Chine et les États-Unis. Il manquera de temps. Il décède le 10 mars 1985, un an après son arrivée au pouvoir. Les choses vont alors s'emballer. 4 heures après l'annonce de son décès, Mikhail Gorbatchev est élu à la tête du secrétariat général du Parti communiste.
À l'époque, c'est le secrétaire général du parti qui tient les rênes du pouvoir en URSS, bien plus que le chef de l'État.
Oui, l'élection de Gorbatchev va marquer un tournant dans l'histoire du pays. On va y venir, mais d'abord, parlez-moi alors de Viktor Tsoï.
Крыши домов дрожат под тяжестью дней.
Viktor Tsoï est né à Leningrad en 1962 d'une mère soviétique russe et d'un père lui aussi soviétique, mais issu d'une ethnie coréenne. Il obtient un diplôme en art plastique, il fera un bref passage par l'école des beaux-arts avant de se faire envoyer. Apparemment, un peu paresseux. C'est à ce moment que la future rockstar écrit ses premières chansons, des textes qui parlent des problèmes de la jeunesse.
Alors si je comprends bien, il est né en 1962, avant l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir, il faisait déjà de la musique.
Effectivement, on jouait déjà du rock à Leningrad. En URSS, il faut savoir qu'on trouvait à l'époque deux sortes de musiciens, ceux qui étaient approuvés par le parti et qui avaient accès aux salles de concert, et qui donc pouvaient vivre de leur musique, mais pour être approuvés, il fallait diffuser un message positif et s'habiller correctement, propagande oblige. Les autres étaient donc marginalisés et devaient se débrouiller pour jouer dans des lieux privés.
Et donc, si je comprends bien, pour le rock, c'était plutôt alors dans des appartements que ça se passait.
Oui, mais pas que. Bien que le rock soit considéré comme subversif, et vous connaissez l'idée de rébellion en URSS, c'était tout à fait relatif,
ouais.
Et vous connaissez le KGB, tant qu'il n'y a pas de provocation, ces experts en renseignement et en manipulation laissaient faire, au point qu'on voit s'ouvrir dans le Leningrad Underground une salle de concert non officielle, le Rock Club, un lieu semi-clandestin idéal pour espionner la jeunesse. C'est là que Victor va se produire la toute première fois en 1982 avec son groupe Kino. Et à l'époque, Gorbatchev, il est déjà au Politburo, non ?
Oui, ça faisait déjà 3 ans. Il a connu une carrière fulgurante au sein de l'appareil du parti. Fils de paysan du Caucase, il atteint rapidement les hautes sphères. Et c'est là qu'il manie ses thèses novatrices en matière de sciences, société et économie, et qu'il mettra en œuvre bien évidemment à son arrivée au sommet de l'État. La perestroïka pour la restructuration économique et la fameuse glasnost pour davantage de transparence politique et médiatique. Il supprime la censure, il favorise la parole d'en bas et cette liberté d'expression.
Et cela va avoir un impact sur la popularité de Victor Tsoï, bien évidemment. Sont restés cantonnés à la scène alternative. Leur musique est fortement influencée par le rock britannique, les groupes comme The Cure, Stranglers, Joy Division. Mm-hmm. Leurs premiers albums sont diffusés sous forme de cassettes, sans publicité ni passage à la radio bien évidemment, mais la glasnost change vraiment la donne et va faire exploser leur popularité. Plus que la musique, ce sont les paroles écrites par Tsoï qui résonnent dans la jeunesse. Dans son morceau, Dernier héros, il nous dit, je traduis, la nuit, tu as souvent envie de boire, tu vas à la cuisine, mais l'eau est amère. Tu ne peux pas dormir ici, tu ne veux pas vivre ici.
C'est clair.
Même si le message n'est pas perçu de la même manière en fonction des couches de la société et de leurs aspirations, les paroles restent intemporelles. Tsoï n'est pas un opposant, c'est un esprit libre, il ne fait pas de politique, mais ses chansons relatent son état d'esprit. Et en parlant de l'absurdité de la vie de tous les jours, il va incarner les attentes d'une génération au seuil de cette ère réformiste qu'est la perestroïka.
Voilà pour côté musical, mais il fera même aussi un détour par le cinéma.
Oui, en 1988. Victor explose au cinéma dans un film où il tient le premier rôle. Le film, intitulé Igla, en français L'aiguille, traite d'un sujet jusque-là tabou en URSS, la drogue. Réalisé par son ami le cinéaste Rachid Noukmanov, il enregistrera 30 millions d'entrées et restera à l'affiche durant un an.
Ah oui, quand même, ça fait du monde, hein.
Oui, d'autant que si on ramène ça au box-office belge, c'est comparable aux chiffres de sortie de Skyfall, le film de James Bond.
Alors, pendant ce temps, Mikhail Gorbatchev, lui, tente toujours d'instaurer ses réformes. Il sait parler aux hommes politiques. Il ouvre son marché aux investisseurs étrangers. Une célèbre enseigne, aux arches bien connues, s'installe même sur la place Pouchkine à Moscou.
Maintenant, entre l'avenue Marx et l'avenue Kalinine, le roi du hamburger s'est installé dans un restaurant de plus de 2000 mètres carrés. Je veux y aller parce que j'ai faim et qu'il n'y a pas assez d'endroits pour manger à Moscou. Mais j'ai une question, est-ce que ce sont nos produits ou les leurs ?
30 000 clients ont été servis en un jour, le 31 janvier 1990. Vous aimez, vous, les hamburgers, Philippe ?
J'adore.
Quelques mois plus tard, à 8 km de là, dans le stade Louzniki, se tient un festival.
Victor Tsoï arrive au stade dans une grande limousine noire. Malgré la pluie, 70 000 personnes l'attendent dans le stade. Un record absolu en URSS. Il vient jouer en tête d'affiche de la fête annuelle du journal Moskovski comme son nom. oui le point culminant d'une longue tournée qui l'a fait traverser tout le pays. Et ce que les fans présents à Moscou ne savent pas encore, c'est qu'ils assistent à son dernier concert. Quelques mois plus tard, Viktor Tsoï meurt dans un accident de voiture en Lettonie. Selon la version officielle, il a perdu le contrôle de son véhicule après s'être endormi en volant et a percuté un bus de plein fouet. Il avait 28 ans.
Alors en 2023, aujourd'hui, ces paroles ont finalement toujours un sens.
Dans nos rires et dans nos larmes, et dans la pulsation de nos veines, changement, nous attendons le changement. Viktor Tsoï a incarné tous les espoirs de la génération perestroïka. Aujourd'hui âgés de 45 à 65 ans, ils ont rêvé d'ouverture, ils ont connu l'explosion de l'URSS et les bouleversements qui ont suivi. Mais l'héritage de Viktor s'est depuis transmis aux plus jeunes générations. Aujourd'hui encore, ses textes et sa musique sont bien vivants. Il suscite en Russie une ferveur comparable à celle qu'on voit ici avec Kurt Cobain ou Jim Morrison.
Ah oui.
Une chaufferie dans laquelle il a travaillé jeune est devenue un musée, et à Moscou, un mur avec son portrait reste constamment fleuri par ses fans.
Ah oui, quand même. Quant à Mikhail Gorbatchev, lui, il est décédé à l'âge de 91 ans, c'était le 30 août 2022. Alors, favorable ou défavorable à ses réalisations, tous reconnaissent le rôle incontournable qu'il a joué dans la fin de la guerre froide et l'éclatement de l'Union soviétique. Cela a contribué à sa popularité, surtout en Occident, où ses réformes, son image souriante et son discours apaisant sont appréciés.
Welcome Gorby, bienvenue ici, où on est quelques-uns, je crois, un copain à moi et puis moi, à espérer.
Dans son pays, plusieurs lui reprochent toutefois la chute de la puissance russe et les difficultés économiques aussi qui se poursuivent. Il obtient le prix Nobel de la paix en 1990.
20 ans plus tard, Mikhail Gorbatchev se lancera dans la musique, un album de ballades russes romantiques qu'il a bien sûr dédié à son épouse. Les deux formaient un couple fusionnel.
Запыленные связки старых писем, мне случайно встретилось одно, где строка, похожая на бисер, расплылась в лиловое пятно.
Ça le fait, hein. Il avait quand même une jolie voix, Mikhail Gorbatchev. Alors on arrive à notre question du début, hein, Philippe. Mikhail Gorbatchev et Viktor Tsoï, qui, on l'a entendu, hein, ont marqué l'histoire russe, ont-ils finalement pu se rencontrer dans un ascenseur lors du fameux concert du 24 juin 1990 à Moscou?
Tout d'abord, les deux se connaissent, bien sûr.
Oui.
Qu'ils se soient rencontrés, voire qu'ils aient pris le même ascenseur, ça me semble peu vraisemblable. Une génération sépare les deux hommes, et comme on vient de l'entendre, l'Europe n'intéresse pas vraiment Gorbatchev. Son truc, c'est plutôt musique classique et traditionnelle.
Ouais, les balades.
Par contre, une chose est certaine, Gorbatchev n'ignorait rien des faits et gestes de Tsoï. Je vous rappelle que le KGB entretenait une très étroite surveillance de tout ce qui se passait dans le monde du rock russe.
Oui, si je comprends bien, donc, une rencontre peu probable entre ces deux hommes. Merci Philippe.